vous avez des questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et plutôt que de prendre la voiture, pourquoi ne pas rester à tout simplement chez soi, à profiter de ses plantes, de son jardin? C'est pas un conseil qui va me démentir, notre ami Philippe Munier est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Alors, meilleur vœu à l'antenne, nous on s'est vu hier, hein, on a pu souhaiter la bonne année en vrai, mais meilleur vœu à vous et à nos auditeurs jardiniers également.
Eh bien oui, grand bonne année dans les jardins, bonne année pour les jardinières et les jardiniers, bonne année sans pesticides, évidemment.
Tiens alors. Avec un jour de plus pour aller au jardin cette année d'ailleurs.
Eh bien en plus, vous rendez compte un petit peu, ça va au moins doubler la production du jardin,
minimum.
Donc voilà, on a quand même une grande année, et puis je vais vous dire quand même 2x20, ça peut éventuellement donner des idées.
Bah oui, on pense aux plantes, hein, uniquement.
Ah, évidemment, toujours aux plantes.
Uniquement, bien sûr, évidemment.
Que du végétal.
02 99 67 35 35. 02 99 67 35 35. Venez poser vos questions à Philippe Munier en matière de plantes, de jardinage. Il est là pour vous répondre. Il y a des trucs à faire en particulier en ce moment ou pas là?
Oui, alors il y a un truc qui est vachement bien à faire, c'est de rester à la maison au chaud.
Ah, c'est bien ça, oui.
C'est cool. Hein. Et puis par contre, on en profite parce que normalement, si on est un jardinier,
émérite,
voilà, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, on a commandé les petits catalogues. Il y a plein de catalogues de graines. Mmh. Et là, en ce moment, c'est le grand plaisir, de feuilleter ces catalogues et de voir les nouveautés, de dire, celle-là, je l'essaierais bien. Celle-là aussi. Et puis, quand on fait la liste, on s'aperçoit que ça fait beaucoup de plantes et le jardin est tout petit.
C'est beaucoup de sous
et le porte-monnaie est raplapla. Donc, au bout du compte, on a bien rêvé pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure.
Et on n'en achète qu'un, c'est déjà pas mal.
Carrément,
je vais vous poser une question de Candide, mon cher Philippe, puisque vous nous parlez de graines. Il y a les catalogues de graines et puis on parle beaucoup des variétés anciennes. Faciles à trouver, les graines de variétés anciennes?
Alors, il y a plein de variétés anciennes. Alors, souvent, les variétés anciennes, l'avantage qu'elles ont en plus, c'est que elles peuvent se reproduire par graines, évidemment, mais encore en plus, on peut les avoir par bouture, parce que c'est des plantes qui se séparent, qui se bouturent, qui se partagent avec une facilité déconcertante.
D'accord.
Donc, oui, les variétés anciennes sont à diffuser avec sans modération, absolument bon. Aucune modération, parce qu'elles sont très très intéressantes, elles se multiplient toutes seules, elles sont généreuses, on n'a pas besoin de les arroser ou moins que les copines, enfin bref.
Et c'est de la biodiversité en plus.
Voilà, et puis c'est beaucoup de plaisir surtout.
On continue bien évidemment, on va seulement commencer d'ailleurs à vous poser des questions au 02 99 67 35 35, n'hésitez pas.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et nous allons débuter avec la question de Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Comment allez-vous Monique?
C'est au sujet de mon oiseau de paradis.
D'accord. Bon ben ça doit aller alors. Alors,
comment?
je vous demandais comment vous alliez en fait.
Ah, très bien.
Bon d'accord. Donc votre oiseau de paradis, qu'est-ce qui se passe avec?
Qu'est-ce qui se passe? Bah, il va bien apparemment, il a des belles feuilles, il fait des feuilles, et il a 4 grandes tiges. Alors, je pense que c'est des fleurs, mais ces tiges, elles montent, mais elles vont fleurir quand?
Nous en sommes déjà à 3 mètres de tige, hein, Monique, hein, c'est bien ça.
Non, ça commence à
flirter avec le toit de la maison. Là,
c'est ça gratouille le chevron, là. Dites-nous tout, Philippe.
Ils font bien pas loin de 40 centimètres.
Hein. Ah oui, quand même. Philippe, dites-nous tout, ces grandes tiges.
Eh bien là, je vais vous dire un certain temps.
Un certain temps.
Mais oui, parce que la mise à fleur, bon, de toute façon, l'élévation de la tige florale, il faut qu'elle monte un petit peu au-dessus des feuilles pour pouvoir s'ouvrir, s'épanouir, se montrer belle et magnifique. Alors donc, ça va prendre un certain temps. Et puis, ça dépend aussi de l'ambiance globale de votre maison, de la chaleur, du taux d'humidité, etc. Donc, il y a tout un tas de paramètres que je ne maîtrise pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire, ça a duré 3 jours, ça a duré 3 heures.
Mais c'est normal.
J'en sais rien du tout, mais que ça prenne le temps de se faire, c'est normal, donc soyez patiente, parce que c'est la vertu première des jardiniers, donc on ne s'énerve pas, on ne l'engueule pas tous les matins, au contraire,
on lui parle gentiment. Jours, de dire quand est-ce qu'il va me donner une belle fleur, parce que
voilà, mais a priori c'est 4 d'un coup, alors ça va être super quand même.
Bah oui, il y en a 4.
Ah ben voilà, bon, faut ben, juste.
Ben, attendez un petit peu, ça va venir et ça sera de toute façon magnifique. Par contre, vérifiez bien ce qui est un taux d'humidité régulier, parce que si l'air de votre maison est trop sec, le bouton va avoir du mal à s'ouvrir et du coup les fleurs seront parcheminées, abîmées. Donc vaporisez un petit peu d'eau régulièrement de façon à ce que ça s'ouvre bien et que vous en profitiez au maximum.
Eh ben voilà, Monique.
Ça dure longtemps quand c'est en fleur.
Ah, c'est une grande durée. C'est si l'humidité de l'air est suffisante, mais pas trop non plus pour pas que ça pourrisse. On est parti sur quasiment un mois de floraison.
Ah donc, oui, c'est très bien.
On en profite pleinement.
Parce que là, en fait, il est dans ma véranda et après je peux le remettre dehors parce que cet été il a été tout l'été dehors. Je l'ai rentré dans la véranda. Et puis, bon, ben, je m'en occupe tous les jours, mais...
Mais le remettez pas dehors avant le 15 mai, fin mai, début juin même, hein, carrément. Il faut vraiment que...
Parce qu'il est dans un pot, je pense qu'il est un peu juste maintenant. Le pot, il fait peut-être 40 cm de large aussi, lui.
Alors, ils aiment bien être un petit peu juste. Hein. Alors, bon, trop juste, faut pas exagérer non plus, mais un petit peu juste, ils aiment bien. Donc, ne changez pas trop vite de pot. Voilà, ne changez pas trop vite de pot.
Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage, donc, Monique. À bientôt, Monique.
Bon, ben, je vous remercie. Bonne journée et meilleurs
voeux. Très bonne journée et plein de bonnes choses pour 2020 pour vous, Monique. À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Direction Dinan maintenant avec Christiane. Bonjour, Christiane.
Oui, bonjour, monsieur. Tous mes voeux aussi également, hein, pour une bonne année 2020.
À vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, dites-nous.
Oui, alors voilà, j'ai un clivia qui ne fleurit pratiquement plus, mais je pense que c'est parce qu'il est trop serré dans son petit pot. Et je voulais savoir quand est-ce que je peux le changer, justement, de pot.
Alors, quand est-ce qu'on change de pot? Est-ce qu'on a du pot ou pas? C'est le bon moment.
Le clivia, ça serait pas vraiment le meilleur moment maintenant, mais bon, à la limite, s'il fleurit plus trop, vous pouvez le faire. En le faisant délicatement, c'est jouable quand même. Là aussi, le clivia, faut faire attention, il aime bien être un petit peu serré dans son pot. Quand il a un grand pot avec plein de place pour ses racines, il aime pas du tout, il a besoin de coloniser la totalité de l'espace et de se positionner. Je suis chez moi, Miltonnerre, et là, il se met à fleurir. Donc, faut faire attention, quand on le change de pot, ne lui met qu'un pot de la taille juste au-dessus, pas plus. Hein,
et on lui...
Voilà. Hein, donc, il faut y aller progressivement. Et comment dirais-je, et mettre un très bon terreau universel plante verte ou un truc comme ça, il faut pas avoir peur de mettre un très bon terreau. Par contre, ce qu'il faut pas oublier pour qu'il fleurisse bien tous les ans, c'est de le mettre au sec pendant l'été, c'est-à-dire que vous le sortez, vous le mettez à l'ombre, lui donnez un minimum à boire. Hein, faut presque l'oublier, pas trop quand même, faut pas exagérer. Faire attention aux limaces et aux escargots qui adorent boulotter ses feuilles. Donc il faut faire attention. Et puis après, on le rentre tranquillement fin septembre. Il a passé sa petite cure de sec et de chaleur et d'air. Et là, il va pouvoir tranquillement préparer ses fleurs. La floraison, il y a lieu en moyenne en janvier, entre janvier et mars.
D'accord, donc on est dans la bonne période, mais là, il va peut-être falloir qu'il ait un petit peu plus de place. D'accord, Christiane?
Peut-être, mais ce n'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire.
Il faut peut-être que j'attende le mois de prochain, alors, pour changer de pot.
Moi, je serais vous, il a été sorti dehors, tout s'est bien passé, normalement, il va fleurir. Ouais. Donc, je crois que j'attendrai mars, avril pour lui remettre un pot un peu plus grand. En attendant, j'espérerais avoir la floraison, en profiter largement. Et puis, voilà. Et surtout, faites attention, jamais de soleil direct au clivia. Hein. C'est une plante d'ombre, absolument d'ombre.
Il faut rester calme et attendre tranquillement.
Bien sûr. Je vous remercie.
À bientôt, Christiane. De belles choses à vous pour 2020. Au revoir.
Oui, pour vous demain. Merci.
Nous allons dans le Morbihan maintenant avec notre amie Nicole. Bonjour, Nicole.
Bonjour, messieurs. Bonne année.
Bah, vous aussi, plein de bonnes choses. Dites-nous tout, justement, parmi ces bonnes choses, est-ce qu'on peut y faire et y contribuer de quelque manière?
Voilà, donc j'ai plusieurs kiwis, les femelles. J'ai ramassé les fruits en temps et en heure, une fois une ou deux gelées passées dessus, et j'ai voulu savoir maintenant quelle taille, à quel moment il faut faire la taille.
Le kiwi,
Mais écoutez, si vous avez le courage cet après-midi, a priori il pleut pas, bah allez-y, parce que c'est vraiment une très bonne période maintenant, dans la mesure où on a toujours le risque d'avoir un coup de chaleur mi-janvier et de faire remonter la sève à ce moment-là. Donc l'idéal, c'est de le faire le plus tôt possible, et on peut même tailler le kiwi le jour de la récolte. Comme ça, on est tranquille, on est dehors de toute façon.
Oui.
Tant qu'à faire, on fait la totale, et comme ça, on est tranquille. Mais si vous ne l'avez pas fait, bah vous pouvez y aller cet après-midi. La météo est bonne, vous affûtez bien votre sécateur, vous le désinfectez et vous y allez de bon cœur. Il faut faire des tailles sévères pour avoir des belles productions.
Eh ben voilà, il n'y avait qu'à demander. C'est pour aujourd'hui.
Il faut tailler les branches qui ont produit les kiwis.
Il faut tailler les branches qui ont produit les kiwis. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école où on garde toute la partie qui a produit le kiwi et on taille juste au-dessus. C'est pas la mienne, hein, d'école, hein, parce que je trouve que ça donne des fruits de plus en plus petits. Mmh. Mon école, c'est que toute la branche qui a porté les fruits, je la ramène à la charpente à deux yeux, exactement comme pour la vigne ou comme pour la glycine.
D'accord. Taille à deux yeux. Et là, on a des plus gros fruits, du coup. Là,
on a des gros fruits, absolument.
Bah, c'est pas mal. Gros.
Bah, c'est pas mal, ouais, un petit peu mal. Moins, mais ils sont plus gros, donc c'est quand même plus cool.
Allez, deux yeux. Merci, Monique.
Merci.
Bon courage pour cet après-midi à la taille. À bientôt. 02 99 67 35 35. 02 99 67 35 35 pour poser vos questions à Philippe Munier, notre expert jardin. On ira à Ploufragan dans quelques minutes avec Monique. Monique qui a des questions pour notre ami, peut-être également les vôtres. Vous nous appelez pour les poser à Philippe Munier.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne, qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, affières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Souchon sur France Bleu Armorique et sous les jupes des filles. France Bleu.
La semaine prochaine, dans Microzone, le grand jeu de 11h, gagnez un séjour en Finistère avec Gîtes de France. À Quimper, en pleine Cornouaille, ou sur la Pointe de la Torche, en Pays Bigoudin, ou encore à Morlaix, dans le Léon. Évadez-vous où vous voulez en Finistère.
En fait, oh, du Finistère, aux longues plages de silence.
Jouez avec nous jusqu'à jeudi et qualifiez-vous pour la grande finale. Microzone sur France Bleu Armorique.
C'est à 11h avec Francis Létocard.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Qu'il s'agisse de plantes de votre jardin, n'hésitez pas à poser vos questions à Philippe au 02 99 67 35 35. Chose promise, chose due, on part dans les Côtes d'Armor maintenant, rejoindre Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Monique, dites-nous tout, comment peut-on vous aider ce matin?
Voilà, alors j'ai eu les petits-enfants en vacances, on a cassé là deux aéoniums, mais très grands, hein, ce qui fait un mètre, et puis l'autre des branches, quoi. Alors donc l'autre qui fait environ 60-70 cm. Alors je ne sais pas si je dois les couper, est-ce qu'on paie la tige, si je dois les laisser dans l'eau, si je dois les enterrer tout de suite, je ne sais pas quoi faire.
Alors, Philippe, il y a eu de la cabane dans les arbres et puis pouf, l'arbre.
Ah, les petits-enfants, c'est les aéoniums, c'est des plantes grasses plutôt, hein, c'est des succulentes. Mais c'est pas grave. Non, vous avez, c'était une bonne approche.
heureusement que vous êtes là, parce que sinon on serait mal, hein.
Donc toujours est-il que personnellement le bouturage de ce genre de choses, d'abord on recoupe immédiatement la partie qui a été cassée, on la recoupe bien avec un sécateur, une belle coupe franche, ensuite on laisse sécher pendant 3-4 jours, il faut bien que ça sèche, et après vous mettez dans un mélange 3 quarts de sable, un quart de terreau, de terre de jardin, et c'est reparti pour un second tour. En général ça bouture comme qui rigole, et donc voilà, c'est réparé. Pour les petits morceaux qui sont cassés, ça fera des nouvelles plantes. Et puis pour les plantes qu'on ramassait, là aussi, il faut revenir, recouper, redonner un joli coup de sécateur pour avoir une belle cicatrice. Et puis éventuellement, ce que vous pouvez mettre, c'est un petit peu de poudre de charbon de bois. Il reste peut-être de l'été dernier. Vous faites une petite poudre de charbon de bois et vous mettez sur les plaies de manière à bien cicatriser la plaie, qu'il n'y ait pas de risque de pourriture, parce que c'est l'ennemi de l'aénium, c'est la pourriture.
D'accord.
Mais elle a déjà séché, là, la cicatrice.
Bon, c'est bien, impeccable, c'est bien sec, allez-y gaiement, et puis c'est reparti. Et puis, quand même, tirez les oreilles doucement, évidemment, des petits-enfants pour la prochaine fois.
Voilà.
Oui, vous savez.
Et ils sont terribles, je sais, j'ai eu les mêmes à la maison, donc il n'y a pas de souci.
Et on ne le dira jamais assez, pas de cabane dans les plantes grasses, ça ne marche pas.
Non, hein. Ça ne marche pas, ça tombe tout le temps.
Voilà. Vous remercie.
Eh ben nous aussi on vous remercie de votre fidélité. Dimanche. On souhaite une belle année. Vous faites des bisous quand même aux petits enfants. À bientôt, Monique.
À bientôt.
On part du côté de la Nouille Blanche maintenant avec Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour Yann. Bonjour Philippe. Bonjour à tous.
Très bonne année à vous pour commencer, Gérard. Dites-nous tout. Comment on peut vous aider?
Tous mes meilleurs vœux à tout le monde aussi et à tous les auditeurs. Moi ça serait pour un problème de vigne, de raisin de table, du raisin blanc.
Ouais.
Qui la vigne fleurit bien, les raisins se forment bien, et quand ils arrivent à une taille de entre 7 et 10 mm, hein, là ils commencent, c'est-à-dire au moins mi-juillet, début août, le raisin commence à noircir, et après il y a même des fois les raisins ils éclatent, on voit les pépins, c'est dégueulasse, on peut pas les manger.
Ouais.
Alors que faire ?
Philippe,
Que faire? Il faut lutter contre la vilaine maladie qui a attaqué les gentils raisins, et ça s'appelle l'oïdium, tout bêtement.
Oui.
Il faut absolument empêcher l'oïdium de s'installer. Pour empêcher l'oïdium de s'installer, on fait des pulvérisations préventives avec du purin de prêle ou de la décoction de prêle. Ça marche très très bien. Éventuellement, dans ce purin de prêle ou cette décoction de prêle, vous pouvez rajouter, mais alors c'est homéopathique, on va dire, hein, des petites gouttes de soufre liquide. Hein, ça se trouve en jardinerie, c'est des toutes petites bouteilles, mais c'est pas un hasard parce que ça s'utilise vraiment à la goutte. Vous achetez ça s'appelle soufre liquide, et vraiment il en faut pour un litre de bouillie de prêle, vous allez mettre peut-être fois maxi 3 gouttes, ça suffit largement, hein, et vous pulvérisez régulièrement. Par contre, il faut passer tous les s'il fait humide, comme c'est de temps en temps le cas malheureusement en été breton, il faut passer tous les 10 jours. Par contre, s'il fait un beau temps sec, vous ne pouvez passer que toutes les 5 semaines. Le tout, c'est que le traitement précédent n'ait pas été lessivé par de la pluie. À chaque fois qu'il y a des grosses pluies, ben, faut repasser derrière et vous n'aurez plus d'oïdium et donc vous aurez des bons raisins.
Et ben voilà, Gérard.
Là, je traite à la bouillie bordelaise et au soufre liquide.
Alors, soufre liquide, oui, mais derrière un problème, c'est que vous ne devez pas passer assez souvent. Parce que si ça se développe comme ça, parce que tous les symptômes que vous donnez, c'est vraiment, et pile poil, les symptômes de l'oïdium. Hein, les raisins deviennent gris, puis noirs, puis éclatent. Ça, c'est exactement l'oïdium. Donc, mais... si l'oïdium s'est déclaré, c'est qu'il n'y a pas eu assez de soufre ou à passer régulièrement. Hein, il faut vraiment passer tous les 10 jours et après chaque grosse pluie.
Et comment ça a commencé, à partir de quel moment? Parce que moi, je laisse la floraison pour que les abeilles vont, n'ont pas de problème. Et j'attaque le traitement début juin. Alors, il est peut-être trop tard.
Non, non, début juin, c'est carrément bien. C'est la bonne période. C'est juste la nouaison. Donc, alors, c'est que... S'il résiste au soufre, alors la bouillie bordelaise, pour le coup, ça sert à rien. Pour le, enfin, donc on ça oublie. Sert à rien pour l'oïdium. Ouais. Pour le mildiou, oui, mais pour l'oïdium, non. Hein, par contre, donc, si vous avez un cépage qui est sensible aux deux, effectivement, bah, les deux en mélange, c'est pas forcément plus nul. D'ailleurs, le mélange des deux, ça s'appelle la bouillie nantaise. Hein, donc, c'est voilà, qui est aussi un pays de vignobles. Mais donc, voilà. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez quand même de l'oïdium alors que vous traitez au soufre. C'est que forcément, il y a un problème. Alors, faudrait essayer de trouver lequel. Sachant que l'oïdium se développe dans des conditions assez spécifiques, c'est quand il y a des grands écarts de température entre la nuit et le jour. Mmh. Donc, ce qu'il faudrait peut-être aussi, c'est imaginer avec un bâchage quelconque, recouvrir la vigne pendant la nuit. Pour
que ça ne descende pas trop.
Voilà, exactement, pour casser ce processus, et ça n'existe effectivement que en fin de printemps, début d'été, et après, juste en fin d'été, hein, c'est là où effectivement arrive l'oïdium des cucurbitacées, c'est pour les autres plantes, mais ça, on peut aussi avoir des attaques d'oïdium sur la vigne à ce moment-là aussi. Donc il faut vraiment casser ce système-là, donc vous pouvez peut-être imaginer un système de protection de la nuit.
Parce que là, elle est exposée en plein sud sur un mur de pierre.
Ouais, mais ça c'est bien, c'est ce qu'il y a de bien pour une vigne, mais il doit y avoir un truc qui fait que ça refroidit trop la nuit. Donc là, je pense que je voulais essayer d'imaginer un truc. Hein, je connais pas votre maison, je connais pas. Essayez d'imaginer un truc qui permettrait de la couvrir la nuit de manière à limiter la descente de température et comme ça, le champignon pourrait pas se développer.
Vous testez ça puis vous nous redites pour le coup, Gérard.
Une toute petite question. Alors, vu les températures qu'on a actuellement, à quel moment je peux l'entailler? Est-ce que je peux l'entailler vers la mi-février ou encore plus vite?
Ah non, vous pouvez tailler même maintenant. Hein.
Même maintenant.
Cet après-midi.
En Alsace, ils attaquent les tailles maintenant. Hein.
Ah bon, bah d'accord, bah, je peux attaquer maintenant.
Allez, c'est
plus sévère comme température.
Kiwi tout à l'heure, affûter le sécateur et n'oubliez pas de désinfecter.
D'accord, voilà. Ok.
À bientôt, merci Gérard.
Merci pour vos bons conseils. Bon dimanche à tous.
Dites-moi, Philippe, l'oïdium, c'est pour ça qu'on a eu des pommes plutôt que du raisin en Bretagne, c'est ça, hein? Non?
C'est un petit peu ça, oui. Ouais. Disons qu'il y a moins d'oïdium sur les pommes que sur le raisin, ça c'est sûr.
On part à Rennes avec Joseph. Bonjour Joseph. Joseph, on va rejoindre Joseph dans quelques minutes. Joseph, bonjour.
Oui, bonjour, je vous écoute.
Alors, Joseph, c'est nous qui vous écoutons pour le coup, parce que à moins que je peux vous poser des questions en jardinage, je suis croyez-moi, vous êtes meilleur que moi.
Ma question ça concerne plutôt des pieds de lavande que nous avons le long d'une haie, quoi. Mmh. Et puis, je voudrais savoir, est-ce que ça se taille? Parce que bon, elle a fleuri et j'ai récupéré de la graine et ça fait les longues tiges au bout de ces touffes de lavande. Et je voudrais savoir, est-ce que la lavande ça se taille à ras ou est-ce qu'il faudrait laisser proliférer comme ça?
Philippe, la lavande, on en fait quoi?
Alors, la lavande, l'idéal, c'est quand même de la tailler systématiquement, oui. Et même assez sévère, mais j'ai bien dit assez, hein, sévère, juste après la floraison. Hein, donc, effectivement, vous faites votre récolte de fleurs de lavande, et quand vous avez fait la récolte, vous faites une deuxième taille, sachant qu'il faut garder à peu près 1 cm de vert. donc oui, des feuilles.
Oui. Hein,
non, juste un centimètre, ça suffit. Pas plus.
D'accord.
Et là,
vrout,
le, ça vous fait
la taille
rase, voilà. Mmh. Et dans ces conditions-là, eh bien, elle va rester très compacte. Et c'est intéressant parce que sinon, elle a tendance à tomber sur le sol. Ça fait une espèce de grand serpent avachi qui est pas très joli du tout. Donc donc il faut vraiment bien la tailler juste après la floraison, tous les ans. Et bien, pas rare, on garde un centimètre de verre.
D'accord, ça fait un peu tard maintenant, effectivement.
Alors, vous pouvez rattraper avec une taille
moyenne,
tout début mars, mais ça va impacter sérieusement la floraison.
Donc il vaut mieux attendre la prochaine, quoi.
Éventuellement, après c'est une question de choix.
D'accord.
Ouais, d'accord, ok, eh ben, merci.
Eh bien je vous en prie, merci beaucoup Joseph,
merci
très bonne année à vous.
Bonne journée à tous.
Au revoir. 02 99 67 35 35, vous nous appelez, Philippe est à votre écoute, il répond à vos questions, et c'est bien mieux que si c'était moi.
Vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Ouais, je suis meilleur en musique qu'en jardinage, hein. Heureusement pour vous d'ailleurs. Souffrir par toi n'est pas souffrir sur Julien Clerc sur France Bleu.
Si un jour tu veux revenir, sans mots, sans pleurs, sans même sourire, négligemment et sans te retenir, sans farder du passé tout l'avenir, le soir quand je te vois sourire sur cette photo qui ne veut rien dire, sous ta vieille lampe qui tremble et chavire, viens grimacer dans mes souvenirs.
Maintenant, comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir, sans souffrir.
Aujourd'hui, je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire.
C'est s'éloigner du monde des vivants, dans la forêt voir l'arbre mort seulement.
Comme un jour tu viendras sûrement, ce salon qui perd son temps.
Ne parlons plus jamais de nos déserts. Et si tu restes, je mets le couvert. Maintenant, comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir,
sans souffrir.
Aujourd'hui, je te dis, tous les voyages ne veulent rien dire.
Je sais des choses qui te feraient rire.
Moi qui entassais des souvenirs par paresse,
ce sont tes vieux chandails que je caresse.
Maintenant, comme avant, doucement, restons-en au présent,
pour la vie.
Aujourd'hui, reste ici.
Francis Cabrel, Julien Clerc, extrait du dernier album de Julien Clerc, un album de duo, vous l'aurez compris, s'offrir par toi n'est pas souffrir.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et vos questions au 02 99 67 35 35 à l'image de Gérard. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour. Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous également. Et comment peut-on vous aider ce matin? Quel est votre souci?
Bon, alors voilà, mon souci, ce sont des rhododendrons.
D'accord.
Bon, alors j'ai plusieurs rhododendrons, dont deux qui font 1m50 environ. Ils ont en gros une vingtaine d'années. Et après avoir été super, c'est vrai qu'ils fleurissaient bien comme il faut tous les ans, les branches sèchent et meurent.
Alors,
ça commence par les branches d'en bas, je les supprime et je m'aperçois que petit à petit,
ça remonte.
Ça continue, ça remonte d'aller. Alors, quoi faire?
Alors, Philippe, déjà, est-ce qu'il y a un critère de vieillesse sur le rhododendron ou pas?
Ben, pas trop, non, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Donc, j'ai peur que ce soit des petits champignons qui soient en train de boulotter tranquillement les racines. Et ça, ouais. c'est pas bon signe parce que les rhodos sont assez fragiles. Il y a pas mal de champignons. Normalement, dans une terre de jardin bien équilibrée, ça doit s'équilibrer. Les gentils et les méchants et donc limiter un petit peu les problèmes. Je serais vous, j'essaierais quand même de bien faire attention justement à gérer le sol de manière vraiment précautionneuse. La terre au pied d'un rhododendron doit toujours être couverte. Ça, c'est très très important. Ce sont des plantes qui sont des plantes d'ombre, qui sont des plantes de sous-bois, qui sont des plantes de creux de vallée dans lesquelles donc il y a pas mal de déchets organiques qui s'accumulent. Donc le pied est toujours couvert et ça permet de limiter les écarts de température et les écarts de d'humidité aussi parce que l'humus c'est une éponge. Donc quand il pleut beaucoup, ça garde l'eau et ça la redistribue tranquillement après, et ça permet donc le rhodo aime vivre dans ces conditions-là. Donc vraiment bien couvrir le sol avec des feuilles mortes broyées, on peut apporter un petit peu de tombe de gazon l'été, mais il faut toujours qu'il y ait une bonne belle couette, si je puis dire, au pied des rhodos, parce que ça, ils aiment ces conditions-là. Ça, c'est la première chose. Et puis vérifier peut-être au niveau de la nutrition, donc peut-être faire un très léger apport. Alors, il faut des trucs très très légers. Un compost suffit largement. Le rhodo est assez spartiate au niveau alimentation. Un bon compost maison, si dedans il n'y a pas eu de cendres de bois ou trop de coquilles d'œufs ou de choses calcaires, parce que le calcaire est un poison pour les rhodos, pour toutes les plantes de terre de bruyère d'ailleurs. Donc faire attention, s'il n'y a pas eu de calcaire, vous mettez du compost maison. Sinon, vous essayez de trouver un compost acide en jardinerie. Donc quand je dis acide, c'est qu'il soit systématiquement inférieur à 6, entre 6 et 6,5, c'est pas mal. Mais si c'est 6, c'est mieux. Faites ça, vérifiez ça. Comment ?
Je fais moi-même mon compost.
Ouais.
Et actuellement, j'en ai du bon, donc je pourrais le mettre.
Très bien.
Idéal. Ah,
et vous le mélangez avec...
Je vais mettre de l'engrais spécial pour rhododendron et camélia, etc. Un petit peu au pied, là.
Alors, faites attention à pas, parce que une plante qui est pas en forme, lui mettre trop d'engrais, c'est comme donner du foie gras à quelqu'un qui a une crise de foie. Donc, faut quand même y aller avec parcimonie. Donc, mettre un petit peu de. Si vous avez du très bon compost, commencez par le compost et mélangez-le avec la feuille broyée. Il faut vraiment bien le diluer et que ça lui arrive en douceur, parce que si vous lui en mettez tout d'un coup, alors là, il va vous faire une hépatite terrible. On y va tout doucement, et dans ces conditions. Là, j'espère que ça ira mieux. Et puis sinon, n'hésitez pas à rappeler s'il faut attaquer autrement. Il y a des choses un petit peu plus dures, mais bon, on va éviter pour le tout de suite là.
On verra après le compost. Voilà, vous essayez déjà le compost, Gérard, et puis vous revenez vers nous. Si ça n'a pas suffi, à bientôt, Gérard. Et belle journée à vous. On part du côté de Saint-Avé rejoindre Irène. Bonjour Irène. Bonjour Irène. Non? On n'a pas Irène. Alors, partons du côté de Montgermont, peut-être, pour rejoindre Malou. Irène, Malou.
Oui.
Alors,
Malou est là.
C'est Malou qui est là, d'accord. Malou, dites-nous tout, comment peut-on vous aider ce matin?
Bonjour à tous les deux, d'abord.
Bonjour, Malou.
Bonjour, Philippe, bonjour, Ambroise. Moi, voilà, c'est pour un olivier, un olivier que j'ai dehors, mais qui est en pot. Donc, je voulais savoir si je dois le rentrer l'hiver. Bon, je lui ai acheté une petite couverture. Bon, c'est pas une couverture chauffante, mais gonflée dans les jardineries. Ouais. Hein. Je le mets dessus le soir, donc est-ce que ça suffit? Philippe, ou est-ce que je dois le rentrer?
Ça m'intéresse. Ça m'intéresse à bien des titres, Philippe, à votre réponse. Est-ce qu'on le rentre?
Parce que vous avez un olivier à la maison.
Oui, c'est ça, très, Paris, très égoïstement.
Hein, voilà, oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. Qui n'a pas son olivier à la maison, à part moi? Bon, bref. L'olivier, il est fait pour résister quand même à des températures qui peuvent être négative, on va dire jusqu'à moins 3, moins 4. Hein. Après, ceux qui résistent en dessous, c'est des variétés spécifiques. En moyenne, moins 2, moins 3, c'est bon, ça résiste sans problème.
Ah,
mais par contre, ça résiste quand c'est les pieds dans la terre. Ah. Le gros problème, c'est effectivement le gel des racines. Et vous avez bien fait, il faut mettre une couverture, mais surtout sur les racines. Il faut protéger le pot, parce que dans la terre, les racines sont protégées. Parce qu'avant que la terre ne gèle, il se passe quand même, il faut vraiment qu'il fasse très froid.
D'accord.
Donc, si vous les avez dans un pot, eh bien là, le froid attaque de tous les côtés. Donc, il peut faire geler les racines très facilement. Donc, si la première chose à protéger dans une plante en pot dehors pendant l'hiver, c'est le pot.
Hein.
Donc, on protège bien le pot. Il y a du plastique bulle, il y a tout un tas de trucs en jardinerie. On protège bien le pot. Et après, on protège le houppier quand il y a du gel d'annoncé. S'il n'y a pas de gel d'annoncé, c'est pas la peine de lui mettre quoi que ce soit sur la tête. Dès qu'on est en température positive, il n'y a pas de souci. Dès qu'on est, il y a du gel d'annoncé, là, on lui met un voile de forçage pour limiter l'impact du froid sur les feuilles. Et dans ces conditions-là, il va passer surtout. Bon, vous êtes à Saint-Avé, hein, vous seriez, je ne sais pas, peut-être.
À
Rostrenin, par exemple, on appelle la Sibérie bretonne.
Ouais.
Eh bien, c'est bon. Voilà, mais là, Saint-Avé, vous avez la douceur.
Alors, pour le coup, on est à Montgermont.
Alors à Montgermont, il fait froid aussi, donc faites attention.
D'accord.
Yann, pour le vôtre, mettez-lui une petite voile de forçage la nuit quand il y a du gel annoncé.
Bon, et ben voilà.
Et un peu de compost ou de terreau.
Pour l'instant, on lui fiche la paix, on le laisse se reposer et on cherche pas à lui donner à manger alors qu'il a pas faim du tout.
D'accord, et par exemple, est-ce que je peux éventuellement penser à le planter en terre?
Ah, ça, c'est une bonne idée, mais faites attention à bien choisir l'endroit. Il faut que ce soit un endroit plein sud, protégé des vents froids et humides, donc protégé et du nord et de l'est et de l'ouest. Donc, vous voyez, il faut vraiment être plein sud. Et surtout, ne pas être dans un creux, parce que sinon, il y a de l'eau qui stagne l'hiver et là, il pourrira. Donc, il faut vraiment.
Le pot, c'est une bonne solution, on le met où on veut.
Ah, voilà, le pot, c'est plutôt une bonne solution, mais on protège le pot.
Exactement.
On m'a dit de le caler contre le mur de la maison. Comme ça, quand il y a du soleil, il y a une réverbération.
Tout à fait, mais c'est une bonne idée, absolument.
Merci beaucoup, Malou. On se dit à bientôt. Au revoir.
Merci pour votre encyclopédie du jardin. Et puis, belle journée à vous.
Merci beaucoup. Voilà, lui, il donne les bonnes réponses et moi, les bêtises. On se complète assez bien avec Philippe. Autre Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe.
C'est un joli prénom, ça.
Oui, c'est un joli prénom, me dit Philippe. Il a raison. Nous sommes à Auray avec vous. Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Moi, c'était une question un peu spéciale. Je m'en vais en Nouvelle-Zélande.
Oh, mon pauvre monsieur.
Allô?
Oui, mon pauvre monsieur. Vous n'avez pas de chance de faire un si beau voyage.
Voilà. Et je voulais savoir si on pouvait ramener des graines. Et quelles graines de préférence?
Alors, normalement, je crois que la Nouvelle-Zélande est terrible là-dessus. Ils empêchent toutes sortes de végétales et surtout toute rentrée de végétales. Hein. Alors, d'accord. Le pire, c'est surtout les rentrées parce que faut reconnaître qu'on est arrivé avec nos gros sabots en Nouvelle-Zélande il y a quelques centaines d'années avec tout un tas de graines venant d'Europe et on a semé ces graines-là en Nouvelle-Zélande. Elles sont devenues invasives. Le thym est une plante invasive en Nouvelle-Zélande.
Ah ouais, c'est fou, ça.
Donc, il faut vraiment faire attention. Et les plantes de Nouvelle-Zélande ont des maladies spécifiques qui s'installent très bien en France. Pour exemple, juste à titre d'exemple, la bactériose de la cordyline. La cordyline, c'est une plante de Nouvelle-Zélande qui a une bactériose à elle toute seule. Hein, elle a le droit, c'est son droit le plus strict. sauf que lorsque cette bactériose est amenée de Nouvelle-Zélande en Bretagne, ça attaque toutes les cordylines bretonnes. C'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années en Bretagne où les cordylines meurent les unes après les autres. Et c'est un petit peu casse-pied parce que c'est joli une cordyline. Sauf quand elle est malade. Donc il faut faire très attention aux balades de plantes.
Donc il vaudrait mieux quasiment éviter, c'est ça l'idée?
Alors par contre, en graines, si c'est des graines qui sont, comment dirais-je, emballées, en sachets, etc. Donc dans ce cas-là, il y a un suivi sanitaire derrière. Vous pouvez ramener de la graine et à peu près tout ce qui pousse en Nouvelle-Zélande, surtout sur les îles du Sud, pousse sans problème en Bretagne, par exemple.
D'accord. Ok.
D'accord.
Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre petit marché et puis vous reviendrez nous dire ce que vous avez ramené, d'accord?
D'accord, pas de problème.
Ouais, à bientôt,
si vous faites
Philippe.
Une bourse aux graines, si vous faites une bourse graines, vous n'oubliez pas de m'inviter.
ça l'intéresse également.
D'accord.
À bientôt, Philippe.
Merci,
au revoir. 02 99 67 35 35 02 99 67 35 35. Philippe revient dans quelques minutes avec les derniers appels de cette heure. Ça passe vite, hein, mine de rien. On ira à Saint-Gilles-la-Dervis et à Saint-Avé, car je sais qu'il aime bien Saint-Avé. Il nous en a parlé. Anita Ward, Ring My Bell sur France Bleu Armorique. Avec Ring My Bell.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et on a retrouvé Irène à Saint-Avé qui est avec nous. Bonjour Irène.
Oui, bonjour. De ces bons conseils que je vais pouvoir avoir peut-être.
Eh ben oui, sans doute.
Je voudrais savoir pour un olivier, est-ce qu'il y a une différence pour récolter les olives, un plant pour les noirs et un plant pour les verts?
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une différence du moment de récolte suivant si ce sont des olives noires ou vertes, Philippe?
Oui.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les olives vertes, ce sont des olives pas mûres.
Et donc, il faut les récolter avant,
on les récolte à partir de, dans les pays du Maghreb, on les récolte à partir du mois d'août, même des fois avant. Et puis ensuite, tout doucement, elles vont devenir de vertes, elles vont passer par tout un tas de stades, de violet, de rose. Hein, donc c'est ce qu'on trouve souvent sur les marchés avec des olives tailladées ou des olives cassées qui sont vendues donc un petit peu colorées. Et pour finir, elles vont devenir noires.
Et alors, est-ce que sous nos latitudes, on arrive à les avoir noir?
Alors, très franchement, sur le sud, oui, carrément. Hein, l'olive niçoise, elle est carrément noire.
Ouais, après, plus on grimpe. Plutôt le sud Bretagne.
C'est ça, voilà, c'est pour ça. Plus on grimpe et plus c'est difficile parce que le froid arrive assez rapidement et a tendance à les ratatiner avant qu'elles ne soient mûries correctement. Donc, sur certaines années particulières, peut-être que ça sera possible. Mais en fait, quand on aura des belles récoltes d'olives en Bretagne Sud, je pense que le reste de la France, ça sera un petit peu embêtant.
Oui, voilà. Ça sera. Oui. Voilà. Malheureusement, donc, ça peut venir, mais ce n'est pas une bonne nouvelle.
C'est ça, voilà, ouais. Exactement.
Oui, pardon, c'est pour vous dire, j'ai un gendre qui fait, il en fait bien 5-6 kilos sur Nantes, et elle reste verte, mais alors c'est super bon. Et à Thonon-les-Bains, notre autre fille, ils ont des plants et ce sont des olives noires.
Oui, c'est plus bas, hein, pour le coup. Hein.
C'est ça, c'est parce que c'est plus bas.
Donc voilà, donc pour vous, si vous en avez en Bretagne, bah, n'attendez pas qu'elles soient noires parce que vous allez attendre un petit moment en fait.
C'est ça.
Et voilà, non, elles restent vertes.
Voilà,
vous voulez récolter vert. Mais le plan est le même ou c'est une.
Non, c'est le même plan, c'est tout à fait, mais c'est juste un stade de maturation différent. Ouais. Voilà.
Ah, bon. D'accord.
Eh ben voilà, Irène. Vous savez tout sur les olives. Je vous fais des bisous, Irène. Je vous dis à très bientôt.
Moi aussi, pareillement. Et bonjour à Thérèse, elle se reconnaîtra.
Eh ben voilà. Et on passe le bonjour à toutes les Thérèses en cas de doute, comme ça. Ça voilà. Pose pas de soucis. À bientôt, Irène. Au revoir. On va à Saint-Gilda-de-Ruys. Maintenant, on reste dans le Morbihan. Avec Claude. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Claude, comment peut-vous venir en aide?
Parce que moi, je suis passionné d'orchidées, mais j'ai des déboires consécutif à chaque fois que j'en achète, ça se dessèche et puis il repousse rien. Alors certaines fois, ça va jusqu'à voir les racines se dessécher. Cette fois-ci, le dernier pied que j'ai acheté, il a des feuilles bien vertes, il a des racines qui sont bien vertes, bien tendres, mais les fleurs ont commencé à dégringoler, en se desséchant. Alors, je ne sais pas maintenant ce que ça va donner. Est-ce que ça va repousser automatiquement par un départ de branche? On ne sait rien du tout. Je n'ai jamais pu aboutir suffisamment loin dans la culture pour savoir ce qui se passe après. Alors, c'est pour ça que je demandais la règle. Quand on achète un pied d'orchidée, comment il faut l'entretenir?
Alors, comment c'est quoi l'entretien des orchidées, Philippe?
Alors, la première chose, c'est l'emplacement dans la maison. Il faut quand même se rappeler que les orchidées, dans la nature, ce sont des plantes de sous-bois, mais carrément, c'est du bois qui fait 35, 40, 50 mètres de haut. Donc, ils sont vraiment dans l'ombre. Mmh. Donc c'est une lumière, en fait, qui n'est absolument sans soleil direct. Donc, dans la maison, il faut mettre les orchidées à la lumière sans soleil direct. La meilleure lumière étant plutôt la lumière du nord. Hein, au nord, des fois, on a des fenêtres ou des châssis, des choses comme ça, qu'on meuble pas parce qu'on dit « oh, c'est au nord », alors qu'en fait, pour des orchidées ou des plantes tropicales, c'est de sous-bois, c'est très bien. Hein, c'est très bonne, une lumière suffisamment forte et à la fois sans aucune lumière soleil direct. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question de température à gérer. Il faut être entre 18 et 22. Donc ça va, c'est plutôt pas trop difficile. La troisième chose qui est un peu plus, même beaucoup plus difficile et qui, à mon avis, est un peu le problème de notre auditrice, c'est l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air. Il faut absolument que autour des orchidées, je ne dis pas dans toute la maison, parce que sinon il va y avoir des petits champignons un peu partout, mais juste autour des orchidées, l'air soit aux alentours de 65% d'humidité. Hein, et 65% d'humidité, c'est assez humide. Donc, d'accord. Il faut vraiment créer une petite bulle d'humidité.
Comment on fait ça?
Alors, on trouve, en plus, en période de fête, c'est encore plus facile à trouver, on trouve des petites fontaines, il y a des choses très, très mignonnes et pas très chères, avec des pulvérisateurs qu'on peut mettre sur... Donc, si on met une prise programmable, eh ben, on met une petite pulvérisation par heure, en général, ça suffit largement, d'accord. Et on la supprime la nuit. Ouais. Hein, comme ça, on ne gaspille pas ni trop d'eau, ni trop d'électricité.
Ce qui est plutôt bien.
Et donc, ça crée des petites pulvérisations, des petites vaporisations très fines. Là, c'est très joli en général, donc autour des plantes. Et elles adorent ça. Et ça n'en met pas partout dans la maison pour pas que les champignons attaquent
les murs.
Le papier peint. Voilà. Donc, l'humidité, et puis après, bah, une alimentation régulière, c'est-à-dire qu'en période d'hiver, on va moi, je les baigne plutôt que de les arroser. Donc, on va les baigner une fois tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, même éventuellement. On regarde toujours la couleur des racines. Tant que les racines sont vertes, c'est qu'elles sont bien alimentées en eau. Dès qu'elles commencent à pâlir, c'est qu'elles ont soif.
Donc, d'accord, c'est un bon indicateur.
C'est un très bon indicateur. Donc, c'est bien d'avoir des pots transparents. Et de plus en plus, maintenant, on achète les orchidées dans des pots transparents. Mmh. Après, on les met dans des cache-pots. Il faut les laisser dans les cache-pots parce que le pot transparent, pas très joli, mais il suffit de soulever le pot.
Ah,
quelle couleur t'as, toi, ce matin? Ah, bah oui, t'as le teint vert, c'est bon. Voilà.
D'accord.
Ouais. Donc, et puis, une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on est dans les bonnes conditions. Bon. S'il y a une bonne température, j'ai oublié une chose très importante, c'est les courants d'air. Pas de courant d'air.
Hein. D'accord.
On met pas ça à côté de la porte d'entrée, parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, elle prend son coup de froid, et ça, elle aime pas du tout. Donc voilà, vous faites attention à ça, et vous aurez des belles orchidées qui pourront refleurir sans problème.
Eh ben voilà Claude, il n'y a plus qu'à, si jamais vous avez un souci, vous nous rappelez, bien évidemment, on revient à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous, on se retrouve dimanche prochain à partir de 9h.
Voilà, et puis juste un petit conseil, n'hésitez pas à faire broyer votre sapin plutôt que de le foutre à la poubelle.
Exactement.
Ce n'est pas un déchet, c'est un produit pour le jardin.
Il y a même certains agriculteurs qui les récupèrent et qui les font renaître, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt, au revoir. Bienvenue à vous, si vous venez seulement d'arriver, 10h sur France Bleu Armorique. Le flash avec Maxime Bossonnet. Les gendarmes du Morbihan n'ont pas chômé en ce week-end de retour de vacances.